appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kata Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, c'est bon début des semaines en compagnie de Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro de parole aux auditeurs pour cette semaine. Les gouverneurs des provinces ont participé la semaine dernière à un séminaire de cadrage de leur mission. Lors de son discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a recommandé aux gouverneurs un contrat programme à conclure entre eux et l'exécutif national, ce qui permettra au président de la République d'évaluer les performances de chaque gouverneur afin de sanctionner la gouvernance après une évaluation chaque 3 mois. Quels pourraient être selon vous les préalables pour la réussite de cette recommandation? Vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-4969, mais vous pouvez aussi déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Martine Malou et Nico Kalambay sont à la réalisation de ce magazine mis en onde par Dieudonné Nyangassa et Pierrot et la Meji. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que lors de ce séminaire, le président de la République a rappelé au gouverneur les 4 axes de sa vision, à savoir l'homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire. Mais il leur a demandé aussi d'avoir un contrat programme pouvant leur permettre d'évaluer leur gouvernance chaque 3 mois. Comment arriver à réussir cette recommandation? C'est la question au centre de notre échange. Singhi Pouloulou, vous êtes acteur politique, député national élu ici à Kinshasa. Vous vous êtes intéressé plusieurs fois quand nous avons fait le débat autour de la gestion de province. Merci d'être avec nous en ligne. Bonjour.
Merci, bonjour Radio Capi, bonjour messieurs les journalistes.
Et l'autre fois, vous avez évoqué la question de la gestion de province et le chef de l'État estime que le gouverneur devait avoir un contrat de programme qui puisse aussi permettre d'évaluer leur gouvernance. Comment on peut arriver à réussir cette recommandation?
Donc, pour le moment, nous devons revenir à l'initial de l'existence. Tantôt par un pays. Comment nous sommes arrivés à être un pays? Pourquoi on appelle X gouverneur et Y président de la République? Ce sont des éléments de base. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pays en soi est devenu pays par rapport à un village. Un papa, une maman sont ensemble dans une maison, ça s'appelle village. Il y aura beaucoup de maisons et ça va s'appeler un grand village. Maintenant, le village, les enfants vont se déplacer à 5-10 km pour créer d'autres villages. C'est ce qu'on appelle le groupement. Plusieurs groupements forment ce qu'on appelle les secteurs. Et les secteurs, plusieurs secteurs forment ce qu'on appelle les territoires. Plusieurs territoires donnent naissance aux provinces. Mmh. C'est-à-dire, plusieurs provinces, enfin, donnent naissance à ce que nous appelons pays. Donc, province gérée par les gouverneurs, pays géré par les présidents de la République. Mais la vision du pays, c'est la vision du chef de l'État. Mmh. Le président de la République, à chaque instant, il doit savoir, il doit se rappeler qu'il est le garant de la nation, qu'il est le père de la nation. C'est-à-dire, la politique des provinces émane de lui. Personne n'exécute sa propre vision. C'est la vision du chef de l'État. Ça, c'est un. Maintenant, pour la gestion des provinces, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. C'est pas en vain que nous avons quitté de 6 provinces à 11 provinces et finalement à 26 provinces. Aujourd'hui, chaque province gérée par un gouverneur, chaque gouverneur doit se rappeler que la province émane de ce qu'on appelle village, c'est-à-dire la gestion participative de la localité. l'entité de base de tout pays, c'est la localité, le secteur, finalement les territoires. Comment gérer les provinces? Un, souvenez-vous à l'époque coloniale, chaque gouverneur, il était associé des cinq éléments. Un, lui gouverneur. Deux, le commandant de la police régionale de sa province. Trois, le chef de l'ECPT, communication. Quatre, l'agronome de l'État. Cinq, les vétérinaires de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'exode rural. Simplement pourquoi? Parce qu'en province, il n'y a plus rien. Cette politique n'est plus observée. On nomme les gouverneurs, mais il n'y a pas l'agronome de l'État. Quelle est l'importance de l'agronome? Les paysans, pratiquement beaucoup n'ont pas beaucoup étudié, ils ne savent pas à quelle terre cultiver quelle semence. Raison pour laquelle vous allez voir que à cause de l'ignorance, tel s'est chamaillé avec tel l'autre monsieur parce que tel est sorcier, il a ensorcelé mon champ et c'est pourquoi je n'ai pas de bonnes récoltes. Alors, l'importance de l'ingénieur agronome, il a des moniteurs agronomes pour pouvoir orienter les paysans à ce qu'il faut faire de bonnes cultures. Le vétérinaire, aujourd'hui nous déplorons les maladies à Ebola, beaucoup de virus. Mais le vétérinaire est là pour guider les paysans sur base d'élevage. À telle contrée, il faut élever tel animal. À telle contrée, il ne faut pas élever ça. Tel animal, il ne faut pas manger. À cette période ici, telle maladie, il faut sécuriser les bétail. Voilà ce qui manquait. Aujourd'hui, on peut tout dire. L'agriculture se fait au village. Il y a des éleveurs. Il y a des pêcheurs. Mais pourquoi ça ne change pas? On va vous parler des routes. Parce qu'au Congo, tout est priorité. Maintenant, le départ dans ces pays commence d'abord par la gestion du territorial. Les ETD, entités territoriales décentralisées. On doit commencer par là. Si les gouverneurs prennent conscience de ce que c'est le secteur, les territoires, vous verrez que le développement sera facile. Mais l'élément crucial pour le moment, pour le Congo, l'état auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, l'élément crucial d'abord, c'est la justice. On peut tout dire, tout ce que le chef de l'État dit que les quatre piliers là. Oui, mais ces quatre piliers seront réels et réalisables que si la justice est réellement à niveau. Nous avons un problème de justice. Le gouverneur, comment il va orienter les recettes? Toutes les recettes, c'est pour lui. Aujourd'hui, j'ai envoyé qu'on puisse notarier un bulletin. On me demande 20 dollars pour notarier une page. Mais sans récit, cet argent va où? Vous allez dans des communes, quand vous achetez l'attestation de naissance, des bonnes vies et mères et consorts, vous n'avez pas un récit, cet argent est canalisé où? Où va cet argent? Donc, la justice n'est pas seulement le fait d'arrêter les gens ou de ne pas arrêter les gens. La justice, c'est vivre correctement. Chacun doit vivre de son salaire, même si c'est peu, mais d'abord orienter les recettes vers la caisse, le trésor public. Et c'est ça la justice. Il n'y a pas autre chose, parce que vous savez, aujourd'hui dans les provinces, il y a un problème d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux routes. Il y a même un problème de maisons. Il faut aller voir comment nos frères et sœurs vivent dans des villages. On ne se rend pas compte. Alors, il y a beaucoup d'argent dans le développement rural. Nous avons tout un ministère de développement rural. Ce ministère sert à quoi? Quels sont les résultats de ces ministères? Voilà pourquoi je parle de la justice. La justice doit être au-dessus de tout le monde.
Alors, pour vous, sur la gestion des provinces aujourd'hui, il faut d'abord se baser sur la justice parce qu'il y a des problèmes, des détournements de fonds, l'argent qui n'est pas canalisé dans les trésors publics. On sait que chaque province a au moins une régie provinciale. On l'a vu à Kinshasa. On en a parlé la semaine passée. Alors, pour vous, vous estimez que quelle que soit la vision du chef de l'État, mais dès lors que la justice n'accompagne pas, ça sera difficile que tous ces gouverneurs puissent répondre à cette vision de pouvoir résoudre le problème de la population.
Oui, parce que c'est la justice, elle est une nation. Nous sommes dans un pays où, quand quelqu'un devient gouverneur, la province devient son bien privé. Vous venez de citer le cas de Kinshasa. Mais allons dans d'autres provinces. Il y a des provinces même où l'activité principale, les minerais. Mais quand vous regardez le patrimoine de l'État, les assemblées provinciales, les bureaux de chefs de secteur, des administrateurs du territoire, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est une province où il y a quand même des minerais. Vous regardez les écoles publiques, vous regardez les centres de santé, les zones de santé, mais vous ne vous rendez pas compte que les chefs des zones de santé, il a quel bureau, il a quel moyen de déplacement. Tout ça, ce n'est qu'un problème de justice.
De justice, voilà.
Tout le monde sait qu'on va m'arrêter. Ça, ce n'est pas mon argent. Ça, c'est l'argent de l'État. Il prend cet argent, il sait qu'on va m'arrêter, c'est fini. Vous savez, les projets pour la santé communautaire, les projets, l'argent qui vient chaque année pour les projets de santé communautaire. Vous savez, cet argent, c'est à l'auteur de combien? Mais qui en est bénéficiaire?
L'argent, la gestion de la rétrocession. Merci. On va revenir à vous. C'est vraiment intéressant, la question de la justice. Vu l'état de gestion de nos provinces aujourd'hui, la justice est un élément très important pour accompagner ces recommandations. On retourne ici. On est à Kinshasa avec vous, Félicien. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, pensez-vous aujourd'hui que c'est possible que les gouverneurs des provinces puissent avoir un contrat programme qui puisse permettre de les évaluer, mais aussi de se rendre compte exactement de la gouvernance de leur province?
Vous savez Pierrot, le contrat des programmes, c'est une bonne chose. Hier, ça a déjà donné des résultats. Mais si chez nous, le contrat de programme a toujours existé, vous allez dans toutes les entreprises, vous verrez des cérémonies tout le temps, et le ministre qui vient signer le contrat de programme, le ministre de tutelle, je vais dire, avec les entreprises sous tutelle, mais la suite, ça n'a jamais rien donné, parce que il n'y a pas un suivi, et puis même s'il y a un suivi, il y a l'impunité et tout ça. Ce n'est pas le problème des contrats programmes, c'est le problème des changements de mentalité, c'est le problème de combattre les antivaleurs et la médiocrité. C'est ça qui va donner le résultat. Aujourd'hui, vous savez, le président de la République est en train de démontrer qu'il faut que les choses changent. Et il donne lui-même des go, vous voyez, avec les travaux qu'il a initiés, mais pour 3 mois. Parce que souvent, les gens parlent de 100 jours, ils pensent que c'est beaucoup. Mais c'est 3 mois. Et c'est énorme. Mais vous voyez la qualité du travail. Quand vous sillonnez partout, et vous voyez la qualité du travail. Mais pourquoi on ne l'a pas fait pendant tout ce temps? Et si chaque mandat, un président de la République vient et dit, bon, écoutez, pour une année, je fais... Et il divise une année en deux, six mois, il fait la quantité, la qualité du travail qu'on est en train de faire maintenant. Au bout de 5 ans, il aura fait comment, il aura fait combien, et comment sera le visage du pays. Donc c'est un problème de volonté politique, un problème d'homme, un problème de changement de mentalité.
Oui.
Aujourd'hui, toutes les provinces sont presque occupées par presque ces gens-là de l'ancienne école de la vieille mentalité et qui étaient habitués à ce système-là de détruire, de piller l'État, de confondre leur poche avec les trésors publics. Et ils sont toujours solidaires entre eux. Et le Parlement est occupé à grande majorité par les mêmes personnes. Mais est-ce que ces gens-là sont en train de comprendre s'il faut changer de comportement, il faut se repentir, il faut partir sur de nouvelles bases pour qu'ils puissent laisser le président de la République les mains libres de travailler? Parce que demain, quand l'un d'eux dans une province ne va pas aller dans l'essence du respect des consignes du président de la République, le président de la République est obligé de prendre des mesures pour les faire partir. Quand ça sera 2, 3, 4, 5, ils vont se liguer pour se protéger entre eux, et ça sera encore un problème entre eux dans ce partenariat avec le président de la République. C'est ça que nous craignons. Mais si aujourd'hui, on dit que les choses doivent repartir à zéro, un état de droit respecté par tout le monde, la loi au-dessus de tous, alors le président de la République va réussir, parce qu'on ne doit pas continuer dans cette impunité, on ne doit pas continuer à laisser un groupe de gens se comporter comme s'ils ont acheté le pays, et c'est pour leur bien personnel. C'est là où les Congolais doivent se mobiliser pour être derrière
Merci.
Le président de la République, parce que s'il n'est pas soutenu avec ce groupe de gens qui ne sont pas prêts à changer de comportement, ça ne sera pas facile.
Merci beaucoup, Félicien. Il faudrait, on sait que la majeure, n'est-ce pas, la majorité des provinces sont gérées par les gouverneurs issus du FCC. Et vous estimez que l'ensemble de ces gouverneurs doivent s'inscrire dans la nouvelle pensée et la population doit soutenir à ce que ces gouverneurs puissent suivre la vision du chef de l'État, les axes qui ont été et développer surtout qu'ils puissent sortir de l'impunité. Et si on réussit vraiment à pouvoir les évaluer, à évaluer leurs actions chaque 3 mois et au bout de 5 ans, on aura un pays suffisamment bien géré et construit. Merci beaucoup Félicien Platini, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour l'invité, bonjour tout le monde, c'est Platini Mbombo, je suis en Bandaka, le compteur.
On vous écoute.
Merci beaucoup Pierrot pour la thématique d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé cette occasion pour vous saluer vraiment un très bon début de semaine. Pierrot, avant de commencer, je voudrais vraiment féliciter la combativité du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a voulu que nous... Et je voudrais aussi remercier le président Félix pour l'investiture de notre gouverneur de l'Équateur, Bobo. Alors, Pierrot, je voudrais regagner maintenant le sujet du jour, parce que on parle de la sensibilisation, les séminaires que le président a eu avec le gouverneur des provinces à travers les pays. Mais il se pose aussi un sérieux problème, parce que, Pierrot, vous devez compter avec moi, le président dans son discours a dit le peuple d'abord. Et le président, il a dit encore qu'il va envoyer la somme un peu consistante pour que ça puisse donner l'occasion du gouverneur des provinces de bien faire marcher et fonctionner les provinces à travers le pays. Mais ici, se pose un problème. Moi, je prends les cas de chez nous, ici, chez nous, à l'Équateur. À l'époque des grands Équateurs, la somme était grosse. Mais pour le moment, quand on a cédé 5 provinces, la province de l'Équateur reçoit au moins 7 à 9 millions. Mais quand on passe 7 à 9 millions, on fait maintenant la sommation de dollars. Donc, à peu près, le gouvernement.
Oui, allô, Platini.
Là, il se pose un problème. Alors, je suis en ligne,
Ok, on vous écoute.
Je suis en ligne. Donc, je disais qu'il se pose un problème parce que le président Félix a dit qu'il va commencer à envoyer une somme très, très, très consistante pour qu'on puisse donner l'occasion au gouverneur de province de bien faire le travail. Mais moi, je prends l'exemple de chez nous ici à l'Équateur. À l'époque du Grand Équateur, là, on parle de 5 districts, mais aujourd'hui, il y a 5 provinces. Mais maintenant, là, la nouvelle province de l'Équateur reçoit 79 millions. Maintenant, si on fait la sommation, à peu près 49 000 dollars. Là, il se pose un problème. Avec des milliers de personnes, avec des milliers d'habitants, il se pose un problème. Alors, moi, je voudrais vous parler parce que le président a dit qu'après 3 mois, il va commencer à faire l'évaluation de chaque gouverneur. Bien sûr, mais il va évaluer qui, quand et comment, et si quel plan. Parce qu'il y a beaucoup de plans. Il y a les gouverneurs de province, bien entendu, qu'aujourd'hui, le 20.
Oh, voilà, on a perdu au Platini qui...
Non, je suis en ligne.
Allez-y, vous. Ok, terminez parce que vous êtes en train de parler de l'évaluation, oui.
Oui, donc je parlais de l'évaluation. Le président a dit qu'il va envoyer un montant consistant pour permettre au gouvernement de faire bien le travail. Mais il se pose un problème, Pierrot. C'est le gouvernement à travers les pays, c'est ça le gouvernement de la FCC. Mais le président, bien sûr, le président l'a investi pour qu'on puisse faire le travail. Mais si on envoie l'argent, le gouvernement central envoie l'argent au niveau du gouvernement des provinces, le gouvernement des provinces fait ce qu'on appelle pas de tournement même, hein, il a changé de modèle. Cet argent était là pour faire...
Voilà, là on a des petits soucis des lignes avec vous Platini, mais rappelons-le que les gouverneurs ont même sollicité aussi auprès du chef de l'État la question de la retenue. Il y a les débats éternels sur le 40% qu'il faut retenir à la source et même la rétrocession, parce qu'on sait que dans l'ancien temps la rétrocession n'arrivait pas en entièreté en province, c'était aussi irrégulière et même quand ça arrivait, il n'y avait pas de rétrocession vers les autres entités. Il y avait tous ces problèmes qui se posaient. Ils ont souhaité que ces mécanismes soient arranger plus vite, c'est ce que les gouverneurs ont sollicité. Mais quand ce que vous avez évoqué la question de l'évaluation, rappelons quand même qu'il y a le contrôle parlementaire qui doit être exécuté, effectué, n'est-ce pas, en province par les assemblées provinciales. Vous avez aussi les contrôles avec la Cour des comptes, il y a les contrôles avec l'inspection du FITA. Il y a beaucoup de mécanismes par lesquels on peut faire le contrôle pour savoir comment l'argent qui a été rétrocédé en province a été utilisé. Merci beaucoup Platini. Dommage qu'on vous a perdu vers la fin de votre intervention. On revient à vous, Singhi Pouloulou. Vous avez suivi nos deux auditeurs. C'est-à-dire qu'il y a la question, vous l'avez dit, qu'il faut d'abord que les gouverneurs puissent investir dans les entités de base. Il y a la question de la justice. Mais rappelons quand même qu'il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui pour contrôler ce que les gouverneurs font. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection des finances. Tout ça, ça peut entrer dans le mécanisme de contrôle pour permettre à ce que la gestion des provinces soit transparente, Singhi Pouloulou.
Oui, je vais bien. Mais j'insiste, dans la vie, en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. J'insiste. Je parle en tant que l'homme d'État. Je vous dis, nous devons décoller. Ce mandat ici n'est pas un mandat d'explication. Nous ne sommes pas dans les... Comme on dit, les avocats disent qu'ils sont dans l'obligation des moyens. Non, non, non. Ce mandat, Singhi Pouloulou est député. Nous sommes dans l'obligation des résultats. Nous devons donner les résultats. Et pour donner les résultats, il faut une théorie réalisable. Il y a des théories fiction qui ne se réalisent pas. Il ne faut pas parler d'autre chose. J'insiste. Premier point, priorité zéro, c'est d'abord la justice. Vous allez me comprendre peut-être plus tard. Alors, les gouverneurs, lorsque le chef de l'État dit ils seront évalués chaque 3 mois, qu'entend-on par une évaluation? Je suis enseignant. Pour évaluer quelqu'un, il faut lui donner de la matière. Quelle est la matière qu'on donne aux gouverneurs pour qu'ils soient évalués dans 3 mois? Donc, les chefs de l'État doivent exiger, s'il peut exiger, au gouverneur que chacun d'eux dépose un cahier des charges pour les trimestres, donc mois de juin jusqu'au mois de décembre. Qu'on voit pour ce semestre-là. Pendant ce semestre, qu'est-ce que chaque gouverneur va écrire et qu'est-ce qu'il va faire? En complicité maintenant avec l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire les chefs de l'État, garants de la nation, les magistrats suprêmes, par l'entremise des assemblées provinciaux, il est capable de redresser ce pays dans 5 mois. Je vous dis, Mouzé nous a démontré, il n'y a pas autre chose que les coulages de fonds. Mouzé est venu, général, ministre, professeur, aventurier, prison. Nous avons vu l'argent. Souvenez-vous quand Mobutu est parti, vous croyez qu'il avait laissé l'argent à la banque? Il n'avait rien laissé. Mais dis-moi, le président de la République est entré, il a trouvé que le président de l'autorité congolaise, Joseph Kabila, il a laissé quand même des millions. Il a quand même laissé des millions. C'est-à-dire, si les chefs de l'État m'écoutent, ses conseillers me suivent, agissons sur la justice. Et l'évaluation ne se fait que sur base d'une matière donnée. Vous ne pouvez pas évaluer un gouverneur si vous ne lui avez pas donné une matière. Et chaque province a ses caractéristiques, a ses problèmes. Mmh. La province de l'Équateur, comme venait de dire mon frère qui vient d'intervenir dans l'Équateur, l'Équateur et les Bandundu, les Grands Équateurs, je parle des Grands Équateurs et Grands Bandundu, ce sont des provinces considérées comme des provinces de catégorie D, sans développement. Mais regardez Bandundu, regardez Équateur. Si le gouverneur a la vision réelle des ETD, Bandundu, Équateur d'abord, on doit avoir des usines de fabrication des meubles. C'est là où provient les bois. Mais comment nous n'avons pas des usines de fabrication des meubles? Pourquoi on n'a pas des usines de fabrication des meubles? Par manque d'électricité. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une usine de fabrication de café, de transformation de café là-bas? L'Équateur a du café. Comment les cotonniers? Vous savez, le Congo était deuxième producteur de l'huile de palme. Ce n'était pas Kinshasa, c'était des provinces. Aujourd'hui, quand on parle des emplois, vous croyez que les emplois proviennent d'où? Mais il y a existé des emplois ici. Ici, au Congo, il y avait des emplois. Il y avait les cotonniers. Il y avait l'huile de palme. Mais ils ont fermé. Vous allez dans des provinces, vous verrez les caoutchoucs. Mais qui a fermé? Pourquoi on a fermé? Mais c'est parce que les gouverneurs lui, tout ce qui lui intéresse, combien est entré et qu'est-ce qu'il peut faire avec. Vous verrez, le gouverneur, il est gouverneur d'une province, mais il est à Kinshasa 24 jours par mois. Dans sa province, il y va seulement une fois ou deux fois par mois et pour faire 4 jours peut-être. Vous voulez que les résultats proviennent d'où? Vous savez, l'évaluation, les salaires que les gouverneurs ont, même nous les députés, les salaires c'est un résultat, hein? Les résultats du travail. Maintenant, ce travail-là, que vous exigez les salaires, vous aussi, vous devez montrer que le travail était bien fait. Pour que le travail soit bien fait, il faut qu'il y ait des suivis. Et ces suivis-là, c'est ce que j'appelle la justice, papa. La justice, mes frères et sœurs, c'est quoi la justice? Peut-être que vous pensez que la justice, c'est seulement les arrestations arbitraires, les viols et consorts. Non! La justice, vous devez vivre de votre salaire. Le gouverneur a un salaire point barre. Il vit de ça. Les députés provinciaux doivent être libres d'interpeller qui que ce soit, de suivre. On dit que les assemblées provinciaux sont là pour contrôler l'exécutif. Le contrôle, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit autrefois. Les chefs de l'État, moi, je lui ai donné trois verbes. Trois verbes. Trois C. Premier verbe, verbe de commander. Il vient de commander le gouverneur. Deuxième verbe, il doit contrôler. Je vous ai dit de faire ça, de redorer l'image des provinces, de réhabiliter les provinces, de donner des emplois. Il doit se contrôler. Comment les chefs d'État contrôlent? Il a beaucoup de services, en commençant par les assemblées provinciaux, par les services de sécurité. Vous le savez? Et troisième C, c'est le verbe corriger. Qui ne travaille pas bien, il doit corriger. Je vous
voilà.
Dis,
alors, c'est pour cela que dans ce contrat programme, si vous avez bien suivi Singi Pouloulou, c'est pourquoi dans ce contrat programme, les chefs de l'État ont insisté sur le fait que c'est sur ces bases de ces contrats programmes, quand chaque gouverneur dépose son programme à l'Assemblée provinciale, c'est adopté. Maintenant, il y a une entente avec l'exécutif national et c'est à partir de ça, de ces différentes recommandations qu'on peut le contrôler. Mais parce que là, ils ont déjà les recommandations. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ernest, vous gardez la ligne Franck. On va revenir à vous. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Parole aux auditeurs.
Ernest, bonjour, merci d'être avec nous de Matadi.
Bonjour Pierrot, et bonjour aux invités, à l'invité, bonjour aux compatriotes qui sont branchés sur le Capi à ce moment-ci.
Et comment on peut arriver à réussir cette recommandation d'avoir ces contrats programmes et surtout permettre à ce que les gouverneurs soient évalués afin de sanctionner leur gouvernance?
Merci beaucoup. Je crois que l'invité a ramassé beaucoup des sous-points que je pensais développer ici. Mais je pense que dans le président de la République a une certaine difficulté de contrôler facilement les provinces, dans le sens que chaque gouverneur va devant l'Assemblée provinciale, va présenter son programme, et le programme sera adopté au sein de l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial va appliquer ce programme du gouverneur. Maintenant, pour que le président de la République soit en relais avec le programme du gouverneur, je pense que au sein du gouvernement provincial, il y a un ministre des relations entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et je propose que ce ministre-là soit aussi en relais avec un service comme celui-là qui est le ministre avec l'Assemblée et le gouvernement. Comme ce ministre, les éléments techniques des programmes du gouvernement au niveau des assemblées arrive à la présence de la République ou au gouvernement central. À ce moment-là, le président, dans son service de synthèse, il aura le tableau net
de chaque province. Et maintenant là, pour arriver à la justice de contrôle, il faut aussi que le, bien que le président de la République va s'appuyer sur les services qui existent, mais il y a déjà des instruments de finances, des experts qui sont formés pour évaluer les projets, les programmes, et ainsi de suite. Ces gens doivent venir, comme on a dit, chaque 3 mois par semaine, ils vont venir. Il faut une certaine permutation, rotation des contrôleurs ou des évaluateurs. Parce que le contrôle, le programme à évaluer, c'est le programme contrat que le gouvernement présente à l'Assemblée provinciale. Et à ce moment-là, dès que le président de la République envoie les experts sur le terrain pour le contrôle, dans votre programme adopté à l'Assemblée provinciale, vous devrez faire ça et ça et ça et ça. Et nous avons donné les moyens pour financer ce genre d'activités. Mais par rapport aux moyens et à l'exécution des programmes, on sent qu'il y a un retard. Qu'est-ce qui justifie ce retard là-bas? Et le gouverneur présente là-bas. Mais comme si nous rentrons dans l'ancienne formule où les contrôleurs viennent, ils arrangent les papiers là-bas pour remplir et puis l'argent utilisé, on garde, parce que le gouverneur peut aussi dire, bon, on va garder chaque mois X montant pour donner aux évaluateurs. À ce moment-là, rien ne se fera comme le contrôle. Donc, pour moi, le contrôle doit faire, et d'ailleurs, revenir sur, je pense qu'il y avait des concours organisés pour les inspecteurs de finances qui, les résultats de ce jour-ci, n'ont jamais été publiés. On peut revenir sur ça. Changer aussi les gens. Mais parce que le président de la République n'a pas un gouverneur à travers la République. Tous ces gouverneurs sont de l'autre famille. Il doit faire des mécanismes nécessaires pour bien contrôler et bien s'imposer pour appliquer la justice, les contrôles et la correction que l'autre vient de déclamer. Donc, il faut que ces contrôles soient très bien suivis et le président de la République ne se permette pas de comprendre là où il ne faut pas comprendre. Parce que l'Ouzolo-Bambi est vivant, il y a des bases de données. Pourquoi l'ancien temps, il n'y avait pas de contrôle qui réussissait? Pourquoi il y a eu ces éléments? Tous ces éléments-là doivent permettre au chef de l'État de bien contrôler et d'avoir des gens qui ne dorment pas, qui doivent se mettre au service de la nation, qui doivent être motivés pour bien contrôler les choses de la République. Parce que c'est l'argent des contribuables. Lorsque nous donnons l'argent pour les travaux de la province, habiller l'armée, habiller la police, qu'on paye les ministres et les députés, on doit se rendre compte que ces gens sont en train de travailler. Ils peuvent travailler 25 heures sur 24, et 8 jours sur 7, et 268 jours sur 300, et 368 jours sur 365. À ce moment-là, on va rendre compte que le travail s'est fait correctement, et les gens, comme on l'a déjà dit, on doit apprendre à vivre des salaires, et peut-être à ce salaire ajoute des primes, des techniques ou des spécialités, des fonctions. Mais les restes doivent être clairement sur un tableau des finances nationales où chacun peut publier aux officiers officiels toutes les réalisations et justifier les absences, les échecs. Pourquoi cela n'a pas été réalisé? On justifie ces ratés-là pour qu'on puisse tenir compte de cela pour bien relancer le contrôle et l'application des programmes décidés par le gouverneur et à l'Assemblée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ernest, pour la définition de tout ce mécanisme. D'ailleurs, vous l'avez dit, ce sont des mécanismes déjà prévus par la loi. Vous l'avez dit clairement. C'est-à-dire que les chefs de l'État peuvent s'appuyer sur ces mécanismes qui existent. Comme l'a dit Singhi Pouloulou, ces mécanismes, cela veut dire quoi? C'est chacun soit en mesure de respecter ce qui lui appartient. Ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Et la justice, c'est ça aussi. Ça permet à ce que tout soit fait sans problème. Merci beaucoup, Ernest Franck. Vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour mon ami Pierrot, bonjour à votre invité, puis à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup pour la conscience et la parole. Je suis en train de suivre depuis le début le développement de ces débats. Je ne vais plus revenir sur ce qui a été dit, car ce que le chef d'État venait de faire, c'est rappeler au gouverneur des provinces, pour moi, je le prends du déjà connu ou du déjà là. Ça signifie que le chef de l'État en fonction a besoin de l'interaction et de l'implication de tout le monde, de tous les citoyens, de tous les responsables à tous les niveaux pour faire asseoir sa vision politique pour le bien du peuple. Et à ce niveau-là, je partage déjà en bloc les arguments émis par notre frère, ami député Pouloulou, avec qui on est en train de se changer et qui me suit aussi, je l'espère. Mais seulement une évidence manifeste que je crois que connaissant déjà comment la politique se fait chez nous, c'est à ce niveau-là que nous pouvons encore chercher à comprendre si cette volonté politique dont on a besoin, dont il est question ici, est déjà au rendez-vous. Alors, à ce niveau-là, moi, personnellement, je ne peux pas me satisfaire parce que le président de la République a convoqué les gouverneurs, il leur a parlé et qu'on se dise tout est déjà en place, ils ont suivi ces allocutions, ça sera fait. Mon ami Pierrot, nous sommes tous citoyens congolais, nous savons comment la politique se fait chez nous. Je me demande si la volonté politique dont on a besoin doit seulement se réduire à une volonté politique protocolaire qui ne serait là que pour couvrir la position de tel ou de tel. Ça, c'est un. Et maintenant, quand notre compatriote, le député Sindi Pouloulou, parle de la justice, on aimerait bien que la justice fasse correctement son travail. Mais avant qu'il ne soit élu député, on s'est changé avec lui, on militait avec lui. Je suis content qu'il soit là et il peut nous suivre. Il parle de quelle justice chez nous? De la même justice dont il connaît les sauts d'humeur, où il y a encore maintenant une autre justice qui ferait correctement son travail. Quand on doit parler de la justice, je crois que la justice n'a pas seulement la mission de sanctionner. La justice a aussi le devoir d'imposer un certain équilibre au niveau de la distribution des revenus du pays. Quand on sait déjà que ceux qui sont dans la politique auront tel salaire, les enseignants, les infirmiers, ils auront quel salaire? Moi, je crois que le problème qui est là, c'est d'abord de mettre les intérêts suprêmes de la nation au-dessus de nos ambitions personnelles. Mmh. Et qu'on évite seulement de penser que quand on a dit que ça va se passer comme ça, c'est ça. Il faut d'abord qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tous ces gouverneurs-là qui ont suivi les directives de l'actuel président en place, mais nous savons ils sont de quelle obédience politique. La question que nous devons nous poser, peut-être que beaucoup n'aimeraient pas aborder, c'est de savoir la plupart de nos gouverneurs recevront des directives de l'actuel président en place ou de quelqu'un d'autre. Parce que nous savons comment ils ont été élus et comment le FCC fonctionne et quels sont maintenant les calculs politiques et du FCC et du cash. Je crois que le problème est plus délicat que ce que nous sommes en train de voir. Il nous faut vraiment de l'attention, du patriotisme. Et quand on argumente sur des thématiques comme ça, c'est mieux d'établir sur ce que nous connaissons que seulement de se baser sur ce qui devait être. Car ce que nous connaissons, c'est la réalité qui est là en face de nous.
Mmh. Oui, mais Franck, si nous devons nous mettre dans la logique de l'avenir, ça dit qu'il faut quand même accorder aux uns et aux autres le bénéfice de doute, parce que quand même, disons-nous, qu'il y a un autre président en place, quand on regarde quand même sur terrain, qu'il y ait même de fait et certaines choses qui changent dans une bonne direction, on peut estimer que les gouverneurs, on peut leur accorder le bénéfice des doutes pour qu'ils gèrent le pays d'une manière qui puisse satisfaire les autres, plutôt que peut-être continuer toujours à voir, bien sûr on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le mal, est-ce qu'il faudrait-il toujours se baser sur le mal, ou bien on peut leur accorder le bénéfice des doutes pour qu'ils gèrent le pays d'une nouvelle manière?
Bon, mon ami Pierrot, à ce niveau-là, je crois que nous connaissons bien, le problème est seulement d'établir si nous voulons croire à base des actes sur le terrain ou seulement des bonnes intentions. Si vous demandez à ce qu'on donne encore tout ça, c'est bien, je peux consentir. Mais le peuple a besoin des intentions ou des actes. Et puis par rapport à ces actes-là, il ne faut pas que ça soit seulement des actes un peu spontanés pour se donner une bonne cote populaire. Parce que quand il s'agit de la justice populaire des salaires, on n'a pas besoin de dire qu'on va ajouter 10 dollars à telle catégorie, mais il faut par exemple dire si les députés auront un salaire de 13 000 dollars, les enseignants peuvent aussi avoir 10 000 dollars. Ça serait juste. Mais si on doit dire les députés ont 13 000 dollars, on prend 13 000 dollars fois 63 000 francs, ça donne autant de mois, et l'enseignant qui est licencié, comme tous les autres députés, on lui donne 129 000 dollars. Mon ami Pierrot, est-ce que c'est sur base de tels faits qu'on doit vraiment se satisfaire? je ne vois pas seulement la situation des enseignants, il y a les infirmiers, il y a même les agents de la
voilà,
fonction publique.
Voilà, ça c'est notre le débat, Franck, sur les salaires des uns et des autres, je crois qu'on peut revenir là-dessus. On sait que le Congo, il y a beaucoup d'urgences, beaucoup de choses à faire. Mais nous tablons d'abord sur la gestion des provinces, les contrats, des performances que les gouverneurs devaient avoir et la manière de pouvoir les évaluer. Merci beaucoup, Franck. Paulin Odiane, merci. Vous êtes à Lubumbashi, député national. Tout à l'heure, Franck disait que les députés ont 13 000 dollars. Faudrait-il lui donner aussi aux enseignants? Mais voilà, revenons à notre débat autour de la gestion de province. Vous avez été député provincial, ministre provincial. Est-ce que c'est aujourd'hui possible que les gouverneurs de province aient un programme contrat et qu'ils puissent travailler d'une manière à permettre à ce qu'ils soient évalués efficacement et pouvoir apporter des résultats au niveau des provinces? Bonjour, Paulin Odiane.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Merci beaucoup pour la question. Je tenais à intervenir, bien que je suis à Lubumbashi. Je crois que, avant d'abord d'entamer la question, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun député qui touche 13 000 dollars. Je ne vois pas. Je l'ai déjà dit que les députés touchent 4 000 dollars. Il n'y a pas moyen de revenir sur cette question-là. La question d'aujourd'hui est de savoir si le gouverneur peut signer un contrat programme avec le gouvernement de la République. Je dirais que l'intention du président de la République, elle est bonne. Mais il est souhaitable que nous puissions passer à l'acte, c'est-à-dire ici, organiser, formaliser cette intention-là. Parce que sur le plan juridique, pour le moment, nous avons un vide. Il n'y a pas un mécanisme qui permet au gouverneur de signer un contrat programme avec le gouvernement de la République. C'est-à-dire ici, nous avons, sur le plan des droits, il y a encore ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Il faudrait que cela soit opérationnel. Et également, au niveau du gouvernement de la République, trouver des fonds alloués aux provinces, c'est-à-dire ici, le programme qui devrait être exécuté par le gouvernement de la République, que ce programme soit exécuté par les autorités provinciales. Et dans ces cas précis, les gouverneurs ne seront pas responsables devant l'Assemblée provinciale, mais responsables devant le gouvernement central. Parce que sur le plan des droits, pour le moment, les gouverneurs ou le gouvernement provincial est responsable devant l'Assemblée provinciale. Donc il n'y a pas un autre mécanisme pour le moment. Donc le gouvernement de la République ne peut pas évaluer le gouvernement provincial. Il n'y a pas un mécanisme juridique qui le permet. Mais si on formalise, comme je viens de le souligner tout à l'heure, on met sur pied un cadre juridique, parce que vous savez, il y a la conférence des gouverneurs, et c'est là où le gouvernement, à travers le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur se retrouve. Donc si on formalise, il est tout à fait normal qu'on puisse passer à ce genre d'action. Mais néanmoins, nous devons préciser que la population a besoin de la transparence dans la gestion de la chose publique. C'est ici également l'occasion d'inviter les députés provinciaux de travailler dans le sens voulu par le chef de l'État. C'est-à-dire ici, quelqu'un qui croit que la caisse de la province lui appartient, donc il faudra impérativement sanctionner cette personne-là. Mais si on ne le fait pas, on est complice de la situation. Et ici, le chef de l'État doit également aller plus loin, aller au-delà des déclarations. Nous avons vécu dans ce pays, la fois passée, on nous a dit que la porte de la prison est grandement ouverte, mais personne n'est entré dans cette prison-là. Il faut que la justice travaille pour décourager la corruption, décourager le détournement des deniers publics. À ce moment, la population va se retrouver, sinon c'est un travail inutile.
Voilà, mais vous avez évoqué qu'il n'y a pas le mécanisme direct pour le gouvernement central de pouvoir évaluer les gouvernements provinciaux ou bien les gouverneurs, mais ce mécanisme est indirect, on peut dire, parce qu'il y a quand même l'Assemblée provinciale. Cela veut dire que l'Assemblée provinciale ne travaille pas comme un électron libre, entre guillemets. Cela veut dire qu'il y a une coalition, c'est-à-dire que le gouvernement central a quand même droit de savoir comment une province est gérée, parce que les gouverneurs ne travaillent pas, entre guillemets, en indépendance. Pendant comme sans être connecté quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, le gouvernement central a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans une province, mais c'est à travers l'Assemblée provinciale.
Nous travaillons tous dans la même République et il faut qu'il y ait coordination des activités ou des projets qui se passent au niveau de la République, parce que le président de la République ou tout simplement le premier ministre va présenter un programme devant l'Assemblée nationale. Il faudrait que le programme des autorités provinciales soit des programmes qui se réfèrent également au programme du gouvernement de la République.
Exact.
C'est tout à fait logique. Oui. Mais aussi, les députés, je précise parce que moi j'ai été député provincial, je fais 12 ans, j'ai constaté avec amertume que il y a vraiment un décalage entre les ambitions légitimes de notre peuple et les ambitions des députés provinciaux. Donc, c'est ce qui fait que le gouverneur et son équipe ne peuvent pas bien travailler, tout simplement parce que les députés sont complices de la situation.
Mm-hmm.
Lorsque chacun dit que non, voilà, il ne m'appartient pas de résoudre le problème de ce pays. Donc, moi seul, je ne peux pas parce que le pays est déjà par terre. Comment on va trouver la solution au problème de la population? C'est pratiquement impossible. Donc, en bref, si les députés travaillent correctement, le budget est voté par les députés, eux-mêmes doivent suivre l'exécution de ces budgets. Au cas où ce n'est pas exécuté, carrément, on met le gouverneur et son gouvernement de côté, on cherche quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail. Et quand aussi on démet un gouverneur ou un membre du gouvernement, la justice doit faire son travail, parce qu'il y a des gens qui volent l'argent de l'État et puis on les met de côté, on les laisse comme ça, et sans sanction, la justice ne travaille pas, la justice ne fait pas son travail. À ce moment, et après, on les nomme encore un ministre national ou un PDG d'une entreprise. Là, on est en train d'encourager tout simplement le détournement des deniers publics.
Merci.
Et ces gouverneurs vont continuer. Parce que l'opération retour est à la base de beaucoup de choses. On est au niveau du gouvernement provincial, on est gouverneur, on doit envoyer l'argent à qui chaque fois. Quand on envoie l'argent, même si on vole l'argent au niveau de la province, on ne peut pas te sanctionner, on ne peut pas te bousculer. Si on est te bousculer, on envoie une délégation à partir de qui pour aller étouffer les députés provinciaux. Là, ça ne peut pas marcher.
Merci beaucoup.
J'invite le chef de l'État à mettre sur pied très vite le gouvernement. Et en même temps, demander aux députés provinciaux de travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population.
Merci beaucoup.
Et au nouveau gouverneur, de travailler pour l'intérêt général.
Merci beaucoup, Paulin Ojane, député national. Vous intervenez à partir de Lubumbashi. On va à Kulungongo pour terminer avec vous, Pichu, et revenir à Kinshasa, à Singipululu pour conclure cet échange. Pichu, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Piro Inamézi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Piro, je salue d'abord l'initiative qu'a prise le chef de l'État. Moi, je crois que ce n'est pas un simple individu qui a prononcé ses discours devant le gouverneur. Moi, je pense qu'il y a lieu d'apprécier l'homme à son époque. C'est vrai qu'il y a eu des choses, mais maintenant là, nous voyons les choses autrement. Nous sommes obligés de nous mettre derrière ce programme afin que notre pays, étant mis à genoux depuis des années, puisse, n'est-ce pas, avoir un air nouveau. Monsieur Pierrot, je lis et relis les discours du chef de l'État devant les membres de gouverneurs de province. Je réponds ici que le président de la République a dit ceci. Vous avez l'obligation d'élaborer vos programmes respectifs en intégrant ma vision qui vise le développement intégral de notre pays.
Mmh.
ça dit tout dans cette phrase. Moi, je pense que le président de la République a une vision qui vise le développement intégral. Ce qui veut dire, le président est aussi, ça c'est un devoir qu'il a donné, et en revanche, les gouverneurs ont le droit de respecter ce que le président leur recommande comme mission. Le président de la République a aussi le droit de mettre en le moyen possible à ses gouverneurs. Mm-hmm. Nous savons très bien qu'il y a des provinces qui ne vivent qu'avec les moyens des pauvres. Et il y a des provinces, aujourd'hui, moi je vous parle, hein, sont les provinces visées par le monde entier parce qu'il y a les cobalt, il y a des minéraux très importants aujourd'hui dans le monde entier. Ce qui fait que le président, avec la justice qui va l'accompagner, doit mettre en place une politique visant à donner des moyens conséquents à toutes ces provinces, que ce soit les provinces qui ne produisent rien, comme notre province de l'Équateur. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à produire là-bas, mais il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de richesses à l'Équateur et que beaucoup ne font absolument rien, rien qu'avec des discours, nous comprenons qu'il n'y a rien qui va là-bas. Donc, je termine par ici. Et la conclusion même du chef de l'État, dans ce mot devant le gouverneur, je compte sur chacun de vous pour qu'à l'issue de mon mandat, nous puissions amener ensemble les changements que j'avais promis au peuple congolais au cours de ma campagne.
Dommage, on a perdu Pichou qui était en train d'estimer qu'il faut que la justice accompagne la vision du chef de l'État ainsi que les moyens qu'il faut mettre à la disposition de gouverneurs. On revient à vous, Singhi Pouloulou, on a suivi les uns et les autres, nous devons conclure cet échange. Le souci des uns et des autres, c'est de voir les résultats sur terrain et les provinces répondre aux problèmes de la population. Et puis, et aussi, comme le chef de l'État a dit, et enfin, qu'on évalue, qu'on voie qu'il y a eu quand même un changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de tout pour cet échange, Singhi Pouloulou?
Merci à tous les auditeurs. Je voulais rappeler que d'abord, pour qu'il y ait des résultats, revenons à l'initial. L'idée de l'organisation est venue des Occidentaux. Quand ils sont venus, comment ils ont organisé notre pays? Nous avons tout un département d'histoire. Je rappelle encore, je me répète, tout gouverneur doit avoir un ingénieur agronome de l'État avec son équipe. Un vétérinaire de l'État avec son équipe. Un commandant pour la police. Un commandant pour un chef de poste pour la télécommunication. Et d'autres services. Si cela est mis en place, je suis allé au niveau de la chaîne des dépenses. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Le ministère de la Justice, dans son ensemble, son budget est à 60% pour le fonctionnement du ministère de la Justice. 40% seulement sert pour les salaires des magistrats. Et je vous informe tout haut, maintenant là, un magistrat touche 1 223 000 francs congolais. Ça fait $680. Si nous renversons, avant même de demander qu'on ajoute les budgets, qu'on améliore les budgets de la justice, si seulement nous renversons que le fonctionnement soit à 30% et le salaire soit à 70%, les magistrats auront un salaire. Parce que si vous prenez ces 60%-là pour le fonctionnement, alors dans des provinces, voir les cours et tribunaux sont dans quel état? Mes frères et sœurs, je sais que c'est difficile, je répète, chaque chose a son temps.
Merci.
Et pour toute chose, il faut commencer quelque part.
Voilà,
le
merci.
Le Congo, la République démocratique du Congo, la gestion de la République démocratique du Congo pour aujourd'hui, la priorité zéro s'appelle justice.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Singhi Pouloulou. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Mais vous l'avez dit, s'il faut renverser les chiffres par rapport au budget alloué au ministère de la Justice, vous êtes l'autorité budgétaire. Quand vous allez examiner les budgets, c'est à vous aussi de pouvoir discuter et faire des propositions pour que la justice puisse avoir des moyens conséquents qui puissent lui permettre d'accompagner la vision du chef de l'État. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et merci aussi aux députés Paulin Wodjan qui intervenait de Lubumbashi.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas.
On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci à Dieudonné Nyangassa qui était à la mise en onde de ce magazine. Martine Malou était au standard. Nico Kalambaya assurait la réalisation. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.